Sarah Loubacouche.
Bonsoir à toutes et à tous. Mondial Sport de retour du vestiaire. On attaque aujourd'hui la deuxième période de votre émission consacrée à l'actualité sportive mondiale. Du football au programme, bien évidemment. Retour sur la deuxième journée de Premier League qui s'est achevée sur un échange très musclé entre Chelsea et Tottenham sur le terrain, mais aussi sur le banc de touche. Et puis un coup d'œil à la reprise en Espagne, à la deuxième journée de Ligue 1 en France aussi. On va parler PSG masculin et féminin puisque Mondial Sport a attendu son micro à Grace Gayoro, parisienne, internationale française, très attachée à ses racines congolaises. Grace Gayoro nous a confié ses ambitions pour le football au féminin en RDC. Puis place au basket avec un point sur l'équipe de France à quelques semaines de l'Euro, avant d'ouvrir une page athlétisme en Europe et en Côte d'Ivoire avec un nouveau record pour Marie-Josée Talouf. Vous savez tout, prenez place, le coup d'envoi de Mondial Sport c'est maintenant, on file en Angleterre.
Mondial Sport sur RFI.
Des poignées de main houleuses, des bousculades entre Antonio Conte et Thomas Tuchel qui ont failli en venir aux mains. C'est sur ces images folles que s'est achevée la deuxième journée du championnat anglais. Après un match très enlevé entre Chelsea et Tottenham, on revient sur cette deuxième journée de Premier League avec Philippe Auclair. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Sarah, bonsoir à tous et à toutes.
On débute avec le derby londonien. Chelsea recevait Tottenham cet après-midi. Un match haletant, Philippe, qui s'est terminé de façon un petit peu violente. On jette un coup d'œil au banc de touche. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux entraîneurs à la fin du match?
Alors, bon, ce qui s'est passé à la fin du match, c'est qu'on voit une poignée de main entre Antonio Conte et Thomas Tuchel, qui en fait n'est pas vraiment une poignée de main. Imaginez plutôt quelqu'un qui saisit votre main, qui essaie de la broyer. Et en fait, l'un et l'autre essaient de broyer la main de l'autre, tout en s'insultant. Et en fait, c'est la conclusion et la conséquence de ce qui s'est passé tout au long de cette rencontre. Une chose qu'il faut savoir, c'est que cette rencontre entre Chelsea et Spurs, c'est en particulier depuis un certain match de 2016, qui s'était également terminé de partout, c'est un match qui est sans doute, je pense, le match le plus haineux du championnat d'Angleterre avec Manchester United Liverpool. Ce qu'il y a entre les deux équipes, depuis, en particulier donc depuis 2016, On va au-delà des rivalités traditionnelles d'un derby, ça dégénère souvent. Et là, ça a dégénéré aujourd'hui. Le match était à la limite pendant pratiquement toute la rencontre. D'ailleurs, au passage, les deux entraîneurs avaient déjà reçu un carton jaune pour s'être confrontés pendant la rencontre, après l'égalisation de Tottenham, la première égalisation de Tottenham, où on avait vu Antonio Conte se précipiter vers le banc de touche de Thomas Tuchel, qui s'est également levé de sa zone technique. Les deux hommes face à face, front contre front, en train de s'abreuver d'insultes l'un l'autre. Carton jaune pour l'un, carton jaune pour l'autre. Thomas Tuchel, le but du 2-1, il nous fait une Mourinho et il traverse quasiment, il fait un sprint le long de la ligne de touche passant devant le banc de Antonio Conte. Enfin bref, on a assisté à un match d'une intensité dans l'engagement physique mais aussi verbal comme on en voit rarement et qui en fait était un résumé, je pense, assez correct des moments les plus chauds de l'histoire de la Première Ligue qui fêtait son 30e anniversaire ce week-end. Et là, je crois qu'on a eu un petit résumé des incidents qu'on a coutume de voir dans le championnat d'Angleterre, dont on sait qu'il est particulièrement réchauffé. Et là cet après-midi, c'était incroyable. On en oublie presque le fait qu'il y a eu un match, que ce match s'est terminé par deux buts partout, un match qui était au passage de très haute volée et dans lequel Tottenham a eu l'immense mérite, dominé dans le jeu, sans le moindre doute, a eu l'immense mérite de revenir par deux fois au score et donc de repartir avec un point de Stamford Bridge. C'était la deuxième bataille de Stamford Bridge, après la première qui était celle de 2016 avec l'égalisation de Eden Hazard, qui a coûté le titre peut-être à Tottenham cette année-là. Et puis une autre bataille de Stamford Bridge, je ne vous en parle pas puisque c'était au Moyen-Âge que ça se passait et c'est à cause de ça que le stade se nomme comme ça. C'était une bataille entre des chevaliers au Moyen-Âge. Donc on ne va pas revenir aussi loin, on va en rester à Tuchel et à Antonio Conte, et c'était en effet un grand spectacle sur le banc de touche comme sur le terrain.
Un très grand spectacle, hein, Chelsea qui de son côté a pu compter sur De Lyon, Philippe, le portier Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly qui a ouvert le score d'une manière tout à fait magistrale. On continue du côté d'Arsenal. Les Gunners se sont imposés 4-2 pour leur premier match à domicile face à Leicester avec un doublé de Gabriel Jesus en l'espace de deux petites minutes. Est-ce qu'on peut dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour les Gunners en ce début de saison?
Presque. je pense que Mikel Arteta ne sera pas trop content du fait que Leicester, qui avait été archi dominé en première période, ait pu revenir à 2-1, puis à 3-2. Donc, je tends peut-être un petit doute dans l'esprit de ces joueurs pour ce qui est du jeu, pour ce qui est de l'ambiance dans cette équipe, pour ce qui est de sa détermination et pour ce qui est des résultats, parce que Arsenal, mine de rien, se retrouve avec 6 points, donc en haut du tableau, en compagnie de Manchester City.
Moins réjouissant, ce désastre de Manchester United hier à Brentford. Un naufrage 4-0. La semaine dernière déjà, les Mancuniens avaient perdu leur premier match de la saison face à Brighton. Qu'est-ce qui coince du côté de Manchester United ?
Tout coince.
Ça a le mérite d'être honnête.
C'est... Tactiquement, il y a eu des choix très discutables et très discutés de Erik ten Hag, le nouvel entraîneur. Un manque total de cohésion, un manque total de concentration, des erreurs individuelles invraisemblables comme celle de David De Gea sur le premier but de Brentford qui laisse filer entre ses mains un ballon, un de ces ballons que n'importe qui arrêterait dans une cour de récréation. C'était une catastrophe. Donc Erik ten Hag, dont on espérait qu'il remettrait un petit peu d'ordre dans la boutique. Eh bien, écoutez, les choses se passent très très mal pour lui, mais très honnêtement, la responsabilité en incombe à ses joueurs, à ses dirigeants, à ses recruteurs comme à lui-même.
Un naufrage pour Manchester United qui ne doit pas faire oublier la très belle soirée de Brentford avec un très beau but d'un certain Brian Bemo, un lion indomptable en devenir qui a fait savoir qu'il voulait jouer pour le Cameroun. Alors, naufrage pour Manchester United, mais ça se passe quand même mieux pour l'autre Manchester City qui déroule 4-0 face à Bournemouth hier, même si l'homme providentiel n'est pas vraiment celui qu'on attend. Haaland n'a touché le ballon que 8 fois lors de cette rencontre, Philippe.
Oui, il n'a touché le ballon que 8 fois, mais chaque fois qu'il l'a touché, il a fait des différences. C'est ça qui est extraordinaire. Puisqu'il a donné une passe décisive, en l'occurrence. Et c'est vrai qu'il n'a touché le ballon que 8 fois, ce qui indique assez le fait que cette équipe de Manchester City doit apprendre à jouer avec un véritable numéro 9, avec un joueur qui soit là avant-centre en pivot. Haaland, qui lui est déployé dans cette position de pur avant-centre, bien les ballons n'arrivent pas encore tout à fait. Mais ceux qui arrivent, il sait les utiliser. Et une équipe de Manchester City, impressionnante de sérénité, de contrôle, qui a joué complètement à sa main, qui n'a jamais été en danger, et qui confirme tout simplement ce que l'on savait déjà, à savoir que c'est leur nom qui arrive le premier dans la liste des favoris pour se succéder à eux-mêmes, en l'occurrence. Hein. Et ce n'est pas la présence de Erling Haaland qui changera quoi que ce soit à ce pronostic.
Merci beaucoup Philippe Auclair. On vous souhaite une excellente soirée. On vous dit à très bientôt dans Mondial Sport.
À très bientôt. Au revoir.
Après donc l'Angleterre, la France le week-end dernier, cette semaine, c'était au tour des Italiens et des Espagnols de rechausser les crampons. On continue notre tour d'Europe du ballon rond avec vous, Sofiane Amazian. Bonsoir Sofiane.
Bonsoir Sarah Lou, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez tout d'abord en Espagne, suite de la première journée de Liga, avec le champion en titre madrilène qui remet sa couronne en jeu.
Les Merengues, tout juste vainqueurs de la Supercoupe d'Europe, Sarah Lou, c'était mercredi face à l'Eintracht Francfort. Ils se frottent en ce moment au promu Almeria, ça se passe plutôt bien. 76e minute de jeu, 2-1 pour le Real grâce à un très beau coup franc de David Alaba qui vient tout juste d'entrer en jeu.
Et le carton du week-end en Espagne, c'est pour Villarreal, vainqueur de Valladolid.
Une victoire 3-0 pour bien commencer la saison. Les hommes d'Unai Emery n'ont pas fait dans la dentelle, doublé de l'entrant Alex Baena après l'ouverture du score du Sénégalais Nicolas Jackson. Cette victoire permet aux joueurs d'Unai Emery d'occuper la première place du classement, contre-performance en revanche du FC Barcelone version New Look face au Rayo Vallecano, match nul 0-0.
Direction la France à présent, Sofiane. La Ligue 1 a repris la semaine dernière, deuxième journée ce week-end, et l'Olympique de Marseille finalement rate le coche face à Brest.
Match intense en Bretagne, Sarah Lou, un but partout, une contre-performance pour les joueurs du Gore Tudor. En jambes en première période, logiquement ponctué par un nouveau but du latéral Nuno Tavares sur une passe de Jonathan Clauss. Mais les Bretons sont restés dans le match et d'une frappe puissante en dehors de la surface de Pierre Lesmélou ont égalisé. À noter tout de même l'entrée en jeu de la recrue star olympienne, le Chili. Alexis Sanchez. Fin de série déjà pour l'OM qui laisse filer le PSG seul leader avec 6 points sur 6.
Statu quo entre deux prétendants à l'Europe, Nice et Strasbourg.
Un match nul, un but partout à l'Alliance Riviera. Ouverture du score sur pénalty par l'intermédiaire de l'Algérien Andy Delors. Égalisation en seconde période de Kevin Gamero. Les deux équipes ne décollent pas au classement, respectivement 12e et 14e. Toulouse, en revanche, a bien réussi son décollage en Ligue 1. Le champion du dernier championnat de Ligue 2 est allé corriger 3 sur sa pelouse, 3 buts à 0.
Et parmi les autres résultats de ce dimanche, un Clermont Foot en mode remontada face à Reims, Sofiane.
Mené 2-0, Saralou au stade Auguste Delaune. Les joueurs de Pascal Gastien ont tout renversé sur leur passage. Au retour des vestiaires, victoire 4 buts à 2, doublé d'Andrich, but de Saracevic et du milieu angolais Jérémy Bella. Un joli rebond après la lourde défaite face au PSG la semaine dernière, 5-0. Et puis en bref, à noter le match nul de but partout entre Auxerre et Angers. Pas de vainqueur non plus entre Ajaccio et Lens, 0-0.
Merci beaucoup Sofiane Amazian, vous souhaite une très bonne soirée.
Et également Saralou.
Et on reste en Ligue 1 de notre côté. On en parlait hier soir dans cette même émission. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 5-2 face à Montpellier pour son premier match de la saison au Parc des Princes. Un Parc des Princes que découvrait le nouveau tacticien du club de la capitale. C'était sa grande première dans le costume de maître des lieux et ça s'est très bien passé pour Christophe Galtier. Troisième match, troisième succès cette saison pour son effectif. Arrivé cet été, l'ancien entraîneur de Nice et de Lille a déjà fait taire les sceptiques. Lui, le Marseillais, en passe d'être adopté par les fans parisiens, Martin Guez.
Oui, de l'impatience, pas de nervosité, mais vraiment une réelle envie de découvrir le parc, et cette fois-ci du bon côté, c'est-à-dire sur le banc de droite. On doit être capable de rééditer ce genre de comportement et aussi de performance pour nos supporters.
Impatient pour sa première dans son nouveau jardin, Christophe Galtier voulait gâter ses nouveaux supporters. Même les plus réfractaires, comme Mathieu, maillot rétro des années 2000 du PSG sur le dos.
Bah, à la base, Christophe Galtier, on n'est pas forcément fan par son passé, mais on est obligé de constater qu'au niveau du jeu, ça se passe plutôt bien. Forcément, on a envie d'y croire, on a envie d'y croire et on est optimiste.
Par son passé parce qu'il est Marseillais.
Bien sûr, il s'en est jamais caché, et donc forcément, pour nous, c'est un problème, mais maintenant il est là, il faut qu'on le soutienne. Honnêtement, je ne le voulais pas, mais maintenant il est là, on le soutient, il est là, donc on n'a pas le choix. Bah, ce serait un scandale s'il est mal accueilli. Maintenant, il a le costume du PSG, il doit être applaudi.
Niveau ambiance, Christophe Galtier a été servi, un public bouillant et une ambiance chaude aussi sur le terrain. Marqué par une première bisbille entre Mbappé et Neymar, le premier boudeur et agacé a raté un pénalty, pendant que le second, à son avantage en ce début de saison, réussit, c'est le sien, son troisième but en deux matchs. Une chamaillerie rapidement évacuée par coach Galtier après la rencontre.
Simplement, voilà, ce sont des joueurs de très haut niveau avec de la personnalité, du caractère. Chacun a sa manière d'exprimer. Donc ça, c'est anecdotique. Ce sont des joueurs qui aiment marquer, qui veulent faire marquer. Avoir quelques problèmes avec ce profil de compétiteur et de grand joueur, c'est pas trop un problème.
Pas de problème pour les débuts de l'ancien entraîneur de Lille. Des buts, du jeu et un management qui séduit. Même Claude, 70 ans, est supporter historique du club et sous le charme.
D'une, c'était un Marseillais, mais bon, lui, il est parisien. Il entraîne l'équipe de Paris, la meilleure équipe de France. Je pense qu'il va réussir avec le PSG.
Vous êtes convaincu par ses débuts?
Oui, je suis convaincu, il va réussir.
Voilà, Claude est rassuré et bien entouré, en compagnie d'un ancien joueur du PSG des années 90, qui a la particularité d'avoir même joué avec Galtier dans sa période lilloise.
Là, on a Omar Dieng qui est avec nous. Là. Omar.
Omar Monsieur, Dieng, bonjour. Bonjour.
Un petit mot,
bonjour, je m'appelle Omar Dieng, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Oui. J'ai eu la chance de le connaître en 89 quand je débutais en pro, ma première année à Lille. Donc, il jouait arrière latéral droit. Donc, c'est quelqu'un qui m'a appris mon métier. C'est quelqu'un que je connais personnellement et je trouve qu'il est tout à fait outillé pour pouvoir amener PSG champion d'Europe, tout simplement. Je pense que les difficultés, il saura le gérer. Le sang marseillais, il parlait, refus de la défaite, il n'aimait pas les défaites, très, très volontaire, très engagé. Moi, j'ai joué avec lui, j'avais 17 ans, il en avait 25 ou 26 ans. Donc oui, la personne n'a pas changé, la flamme est toujours la même, à part qu'il s'est bonifié, son expérience à Saint-Étienne, son expérience à Lille, son expérience à Nice. A fait de lui aujourd'hui l'un des meilleurs entraîneurs français. On a le bonheur à portée de main et on croit que c'est de l'autre côté du périph', comme on dit.
Le bonheur est dans le parc et le plaisir se ressent. En tout cas pour l'instant, estime Habib Bey, ancien international sénégalais, consultant de Radio Foot International.
Ce qu'a mis en place Christophe Galtier, c'est positif. Mais en même temps, à chaque fois qu'un entraîneur arrive au Paris Saint-Germain, tout le monde est sceptique. Je le dis, la mission numéro un d'un entraîneur, c'est de générer du plaisir avec ses joueurs pour justement aller créer de l'émulation au niveau des talents de cette équipe et avoir un équilibre. Donc à partir de là, pour l'instant, il vient un championnat qui est très très bon. Il a gagné le trophée des champions, donc c'est aussi la confiance que génèrent ces résultats-là. Et c'est à lui de le maintenir et de maintenir ce cadre qu'il a posé avec la direction sportive de façon à maintenir tous ses joueurs à ce niveau d'exigence-là.
Une exigence qui va monter crescendo et la Ligue des Champions, évidemment, comme seul juge de paix dès le mois de septembre.
Changement de Paris.
Le PSG qui va connaître ses prochains adversaires pour la compétition européenne très bientôt. Le tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des Champions a lieu dans 10 jours, le 25 août à Istanbul. La première journée, elle, va débuter le 6 septembre.
Sélection féminine, si t'as pas de level, on t'élimine. Ok, c'est à nous de parler, on prend le contrôle, pas là pour charmer.
Paris Saint-Germain toujours, mais on quitte son effectif masculin pour sa section féminine. Mondial Sport a tendu son micro à une joueuse du club de la capitale, une internationale française très attachée à son pays d'origine, la RDC. C'est Grace Gueyoro, elle était chez sa famille à Kinshasa cette semaine, où elle a été reçue par le président de la République. Elle a aussi accordé un entretien à Kaboulo Moana Kaboulo. Elle est revenue sur le parcours des Bleus à l'Euro, sur leur demi-finale perdue contre l'Allemagne, mais aussi sur ses ambitions pour le football au féminin en RDC. On l'écoute.
Qui est Grace Gueyoro ?
Qui est Grace Gueyoro ? C'est une jeune fille qui a cru en ses rêves depuis très petite, qui a passé les étapes, qui malgré certaines difficultés, des hauts et des bas aussi, mais qui n'a jamais lâché en tout cas, qui avait un objectif en tête et qui a cru.
Quand vous regardez cet euro tel qu'il s'était déroulé là, qu'est-ce que vous ressentez? Que vous étiez capable de battre cette équipe allemande? Qu'est-ce que vous vous dites en ce moment?
Je pense que c'était réellement une vraie demi-finale. C'est sûr que les Allemandes, elles ont démontré de très belles choses aussi. Nous, on était là pour forcément aller décrocher cette place en finale. Donc c'était un réel combat. Voilà, on savait qu'il fallait passer par des moments difficiles dans le match. Et je pense qu'elles ont été très réalistes. Elles ont réussi à marquer leurs occasions dans les moments forts. Peut-être que nous, on a manqué aussi un peu d'efficacité à certains moments. Et voilà, c'est le football de haut niveau. C'est une demi-finale. On savait qu'il fallait tout donner pour aller décrocher cette place en finale, en tout cas.
Vous êtes né à Colosi, c'est vrai ? Un 2 juillet...
97.
97. Et vous partez, vous quittez le pays. À quel âge ?
2 ans.
Quand vous revenez au pays, qu'est-ce que vous vous dites, vous, personnellement, en regardant la République démocratique du Congo?
C'est vrai
du
que
sport.
Du
oui.
sport.
Oui.
C'est vrai que j'avais déjà fait un premier voyage il y a 4 ans, oui. où j'étais revenue, j'avais eu la chance de rencontrer aussi l'équipe nationale du Congo, où elles avaient fait un match au Stade des Martyrs. Donc on avait échangé un petit peu, elles avaient la possibilité de me poser des questions, que moi je puisse aussi y répondre. Donc on avait eu cet échange, et voilà, ça m'avait fait énormément plaisir, et j'ai senti en elles aussi cet espoir, de se dire que nous aussi, on peut faire quelque chose dans le football, en tout cas.
Et aujourd'hui, quelle lecture vous faites de l'équipe nationale de football féminin ici en RDC?
Aujourd'hui, de la vision que j'ai un petit peu, c'est compliqué. On voit qu'elles ont envie de jouer au football. Après, il faut qu'elles
aient... Les conditions sont difficiles.
Exactement, il faut qu'elles aient les conditions pour travailler, il faut qu'elles aient les moyens, il faut qu'elles aient des infrastructures pour qu'elles puissent être dans les meilleures conditions possibles, pour qu'elles puissent, elles aussi, s'épanouir. Et faire du Congo aujourd'hui une grande équipe aussi dans le football féminin.
On peut compter sur Grace Gueyoro aujourd'hui.
Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, je pense que si je suis revenue ici, c'est pour réellement faire des choses.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, voilà, notamment avec une fondation que je vais ouvrir,
oui.
que on est en train de mettre en place avec mes proches, avec toute une équipe, oui. pour faire réellement les choses bien ici en RDC. On va essayer de mettre différentes branches sociales oui. et ouvrir aussi une branche sportive pour accompagner oui. les jeunes filles qui veulent aussi s'entraîner avec à la suite, je pense, un projet d'un centre de formation. Mais tout ça, je pense qu'on va le mettre en place petit à petit en tout cas. Mais j'ai réellement à cœur de faire des
quelque
choses.
Quelque chose pour le pays.
Oui.
Est-ce que vous imaginez que vous êtes l'élément détonateur ou l'un des éléments détonateurs? C'est vrai qu'on a parlé de Marie-Antoinette Katoto, c'est vrai, blessée. Mais aujourd'hui, de par vos prestations, vous pouvez pousser comme ça une multitude de jeunes Congolaises à pouvoir pratiquer le football?
Je l'espère en tout cas, c'est mon objectif. Je pense que si j'ai pu faire ce parcours-là, il faut que j'arrive aussi à le partager avec ces jeunes filles aussi qui ont envie, qui ont un espoir.
Vous pouvez vous adresser à elles? Vous parlez bien lingala? On va essayer.
On va essayer.
Ok. Vous pouvez y aller?
En lingala?
Ah, lingala.
Waouh.
Non. Ok. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Je voudrais que vous vous adressiez à elles. Qu'est-ce que vous leur dites à toutes ces jeunes filles? Et même aux parents. Qu'est-ce que vous leur dites? D'abord aux jeunes filles.
Bah, la première chose que je peux dire à ces jeunes filles, forcément, même si c'est pas évident, c'est de croire en leurs rêves. Voilà, on a tous, quand on est jeune, quand on est petite, on a toutes des rêves en tête. Et si elles ont ce rêve d'être footballeuses, il faut qu'elles y croient déjà elles-mêmes avant d'attendre que les autres puissent y croire pour elles. Moi, ça a été quelque chose, c'est réellement ma devise, j'y ai cru. Et je me suis donné les moyens. C'est sûr, ça n'a pas été facile. J'ai grandi en Europe, certes, mais je pense qu'ici aussi, s'il y a des personnes comme moi ou comme d'autres qui pouvons donner un espoir, qui pouvons donner des infrastructures, qui pouvons donner des projets, elles pourront avoir cette facilité aussi d'y croire, elles, plus facilement en tout cas. Donc c'est plus dans ce sens-là en tout cas. Et aux parents aussi, laisser les enfants faire réellement ce dont elles ont envie.
Une jeune joueuse telle que vous êtes là, internationale, vous êtes là. Rien que le succès d'abord, et c'est vrai, tout cela va avec. Un peu d'orgueil?
Non, surtout pas. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est une continuité de mon parcours. Aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir bien gagner ma vie aussi. Mais c'est passé par, comme j'ai dit, des sacrifices, du travail. Donc, à partir du moment où on est passé par tout ça, aujourd'hui, on ne peut pas avoir de l'orgueil. On se dit, c'est arrivé parce que je me suis donné les moyens d'eux, je me suis donné du travail. Donc, aujourd'hui, j'ai ça. C'est un peu une récompense. Pour l'instant, comme je l'ai dit, je suis en France.
Vous y restiez?
J'y suis, j'y reste. On verra par la suite comment va évoluer ma vie, ma carrière en tout cas.
Retour en France à présent. On quitte les pelouses, les terrains de football pour les parquets tricolores du basket. Encore une fois ce soir dans Mondial Sport, l'équipe de France masculine de basket est en pleine préparation puisque l'Euro débute le 1er septembre en Allemagne. Les vice-champions olympiques ont un nouveau statut à défendre, mais ce sera sans Joël Embiid, tout juste naturalisé français. Le pivot camerounais était trop juste physiquement pour espérer être du voyage. Pour en parler avec nous ce soir, Victor Misistrano. Bonsoir Victor.
Bonsoir Sarah Lou, bonsoir à tous.
Evan Fournier et ses coéquipiers abordent la compétition avec de grosses ambitions. Pourtant, la tâche s'annonce délicate, Victor.
Ah, c'est une première depuis 15 ans. L'équipe de France aborde une grande compétition sans Nando De Colo ni le capitaine Nicolas Batum. 340 sélections à eux deux. Ils ont préféré se préserver cet été de leaders, de joueurs d'expérience que vont devoir suppléer les deux stars de l'équipe, Rudy Gobert et Evan Fournier. Pas une mince affaire pour le sélectionneur Vincent Collet.
On ne peut pas considérer que ça puisse être négligeable. Sinon, ça serait sous-estimer l'énorme apport qu'ils ont pu avoir l'un et l'autre ces dernières années. Mais maintenant, c'est à nous de chercher un autre chemin vers le niveau de performance qu'on se fixe et qui est le plus haut niveau en l'occurrence.
Ouais, c'est un peu à Evan et moi de prendre le relais à ce niveau-là, mais les choses se font naturellement. Et nous, on continue de gagner de l'expérience chaque année et on a un groupe de jeunes qui sont motivés.
Rudy Gobert désigné comme le second d'Evan Fournier, promu capitaine.
Et De Colo et Batum ne sont pas les seuls absents puisque les forfaits s'accumulent.
Trois finalistes des Jeux de Tokyo sont blessés, le pivot Mustapha Fall, les meneurs Andrew Albici et Frank Ntilikina, en plus du jeune Victor Wembanyama. Malgré un effectif amoindri, les Bleus visent le titre ou rien, marre des médailles d'argent et de bronze, martèle Rudy Gobert.
Mais pourtant, en face, la concurrence sera féroce, Victor.
Oui, cette année, le niveau s'annonce très élevé avec la présence de stars NBA, Antetokounmpo pour la Grèce, Jokic pour la Serbie ou encore Doncic avec la Slovénie, mais ce n'est pas pour déplaire à Evan Fournier.
Je trouve ça super, je trouve que du coup ça donne une très bonne publicité pour le basket européen, que l'Eurobasket ça devienne une compétition phare, qui soit très regardée à travers le monde. Je dirais pour l'équipe qui gagnera, ça donne encore plus de crédit. On peut dire objectivement que ce sera l'un des euros les plus relevés de l'histoire. Les internationaux prennent de plus en plus de place en NBA et donc forcément le niveau s'élève de l'Eurobasket. Tant mieux! Franchement, tant mieux.
Vincent Collet est plus prudent que son nouveau capitaine, d'autant que l'Euro est réputé plus dur que le Mondial dans son ensemble, car c'est une compétition plus dense.
Il y a des équipes qui sont vraiment impressionnantes sur le papier, donc on sait que quand bien même nous avons effectivement les objectifs le plus élevé qui soit, celui de gagner, on connaît la difficulté de la tâche. Voilà, on sait que les obstacles vont être rudes. Et dès le début, que l'Allemagne, dès le premier jour, ça sera une sacrée difficulté sur notre chemin.
Mais une défaite contre l'Allemagne lors du premier match de groupe ne serait pas rédhibitoire. À l'Euro 2013, souvenez-vous, c'est contre cette même Allemagne que cette équipe de France s'était inclinée en ouverture avant de remporter le seul titre majeur de son histoire.
Merci beaucoup Victor Misistrano, très bonne soirée à vous.
Bonne soirée à tous.
Et pour l'instant, la préparation des Bleus pour cet Eurobasket se déroule plutôt bien. 2 victoires en 2 matchs contre les Pays-Bas et contre l'Italie. C'est à présent l'heure d'ouvrir notre petite page athlétisme avec un beau record, un record éléphantesque même. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a battu le record d'Afrique du 100 mètres en 10 secondes 72. C'était mercredi lors de la Ligue de Diamants de Monaco. À 33 ans, elle améliore le record qu'elle codétenait avec sa compatriote Muriel Aouré. C'était en 10 secondes 78. Après cette performance, notre correspondant à Abidjan, Yoann Gourlet, a recueilli la réaction d'Anthony Kofi. Il était son entraîneur jusqu'à la fin de l'année dernière.
Marie-Josée Talou a battu le record d'Afrique en 10,72 sur 100 mètres cette semaine. Vous avez été son entraîneur pendant quelques années. Quelle réaction vous avez eue déjà en voyant la course ?
À chaud, j'étais content pour la qualité de la course. Une course beaucoup plus rase que d'habitude, moins crispée. Une bonne mise en action, une bonne accélération. Mais la perf en tant que telle, je ne suis pas surpris, quoi.
Vous saviez qu'elle avait ce potentiel ?
Oui, d'ailleurs, c'est des perfs qui sont dans ses cordes. Elle devait le réaliser l'année dernière déjà, aux Jeux Olympiques. Elle avait été programmée pour. Malheureusement, elle a eu des problèmes gastriques entre la demi-finale et la finale. Bon, le monde entier sait comment ça s'est passé.
Alors, ce qui est particulier, c'est qu'elle a changé d'entraîneur en fin d'année dernière. Est-ce que c'est bizarre pour un ancien entraîneur quand on voit son athlète battre son record avec un autre entraîneur ?
Bon, pour moi, c'est pas bizarre parce que pour un entraîneur qui est objectif et honnête et sérieux, vous savez, la performance, c'est une somme de travail qui donne la performance, qui donne la résultante de la performance. Donc, tout ce qu'elle a accumulé comme travail, si j'ai un collègue qui vient pour finir ça en 8 mois, bah ben je lui tire mon chapeau.
Parce que finalement, c'est aussi un peu grâce à vous. Qu'est-ce que vous lui avez appris et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est devenue cette athlète-là aussi ?
Talou, c'est un talent retardé. Elle a découvert le haut niveau très tard. On a commencé en 2014. Elle était à 11,50 au 100 mètres. En 23-26 au 200. 4 ans après, elle a couru en 10 et en 22-08. Donc, c'est un talent. Il fallait juste lui donner ce dont elle avait besoin.
De quoi elle avait besoin ?
Ben, Talou, vous savez, ce morphotype de dame, elles sont naturellement rapides parce qu'on est rapide. Il fallait simplement augmenter sa force spécifique de sprint.
Là, vous êtes plus son entraîneur, mais vous êtes un observateur. Est-ce que vous pensez qu'elle peut descendre sous les 10-70 ?
Bon, descendre sous le 12-70, c'est possible. Tout dépend de la forme du jour, tout dépend de la température, tout dépend de la concurrence et elle-même en présence. En tout cas, elle a les qualités pour courir en 10-65, 10-68. Elle peut le faire.
Le fait qu'elle soit aux États-Unis, c'est un regret pour vous quand même qu'elle soit partie ?
Un regret, pas du tout. Parce que la vie, vous savez, la vie, c'est un choix. Moi, c'est par un SMS qu'elle m'a dit que « Coach, merci pour tout. Je suis aux États-Unis, je m'entraîne avec John Smith. » Donc, je ne suis pas surpris. J'ai connu pire que ça, notre métier c'est comme ça. Vous prenez un jeune, vous la mettez en très haut niveau et puis un matin, il y a quelqu'un d'autre qui le récupère. Surtout qu'il n'y a pas eu de couac entre elle et moi, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'animosité. Bon, donc moi, je suis tranquille. Bon, peut-être qu'elle cherchait mieux ailleurs. Et aujourd'hui, elle a fait son meilleur chrono de tous les temps aux États-Unis. Donc le temps lui donne peut-être raison. Elle a fait un bon choix.
On entendait Anthony Kofi, dont l'un des poulains n'est autre que Arthur Cissé. On l'a appris hier, le record d'Arthur Cissé n'est finalement pas validé. Mardi, il avait battu sur 100 mètres également le record de Côte d'Ivoire en 9 secondes 89 lors des Jeux de la solidarité islamique. Mais en raison d'erreurs techniques, les chronos ne sont finalement pas homologués. Avant de se quitter, un mot d'athlétisme. Les championnats d'Europe multisports se poursuivent à Munich, en Allemagne, avec l'athlétisme qui commence, première journée de compétition avec le marathon demain, mais aussi le début du décathlon. C'est Cédric de Oliveira, envoyé spécial à Munich, qui va vous faire vivre ces championnats d'Europe. Et c'est sur ces paroles que se referme notre week-end de sport. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci à Anaëlle Lenoé à la réalisation. Très bonne soirée à vous sur RFI.